Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Pour cet épisode, je reçois Franck Montsoré, le Country Manager France de Uber for Business. Dans cet épisode, nous allons parler de congé paternité, de télétravail, d'égalité femmes-hommes, de solidarité, de lien social et de beaucoup, beaucoup d'autres choses. J'espère que vous passerez un aussi bon moment à écouter cet entretien que j'ai eu à le faire. Bonne écoute. Bonjour Franck.
Bonjour Gaël.
Alors, aujourd'hui, épisode exceptionnel aujourd'hui puisque je vous reçois, Franck, vous êtes country manager de Uber for Business, mais exceptionnel du fait de la qualité de l'invité, ce que l'on va voir plus tard, mais également puisqu'il s'agit d'une interview sponsorisée. Et je dois bien avouer que j'ai été très surpris que Uber me contacte, moi, le spécialiste du bien-être au travail, pour vous interviewer, Franck. Et oui, moi aussi, je suis victime de certains médias et je n'associais pas forcément la marque Uber à la notion de bien-être au travail. Et en préparant cette interview, j'ai réalisé que c'est pas mal de creuser les questions, parce que j'étais bien loin du compte, comme nous allons le voir pendant cet entretien. Alors Franck, comme d'habitude, je vais commencer cet entretien en vous présentant. Avant d'arriver chez Uber, vous étiez directeur général d'Outbrain pour la région Europe du Sud, en charge du développement commercial de KiwiGo, et vous êtes passé chez Energy, ce qui nous fait un point commun, puisque nous aurions presque pu nous y croiser lorsque j'en étais le directeur général adjoint. Cela s'est joué, je crois, à quelques mois, mais il aura fallu attendre quelques années pour que nous nous rencontrions. Alors, comme je le disais en introduction, je n'associais pas forcément bien-être au travail avec la marque Uber. Vous, Franck, première question, est-ce que vous avez constaté une différence d'approche de ce bien-être dans une entreprise américaine versus une entreprise française comme Energy, par exemple?
Oui, alors en effet, c'est deux mondes différents. On a, après, les époques ont changé, évidemment, puisque quand je travaillais chez Energy et qu'on a failli se croiser, c'était il y a quasiment une quinzaine d'années, donc les choses ont bien changé depuis. Mais c'est vrai que les réflexes sont différents. Je pense que c'est aussi lié à la taille du pays. Les États-Unis, c'est un très grand pays. Les gens ont l'habitude de travailler à distance. Donc, ils ont mis en place des règles de télétravail assez tôt, très tôt, de fait de la géographie du pays. Il y a une communication qui est très directe aussi dans les entreprises américaines, beaucoup plus directe que dans les entreprises françaises. Donc voilà, donc on va observer un petit peu ces différences par rapport à d'autres entreprises. Et voilà, évidemment, au-delà d'être une entreprise américaine, c'est une entreprise technologique. Donc, toutes les entreprises technologiques, il y a beaucoup d'outils, il y a beaucoup de process qui permettent de travailler d'un peu de n'importe où. Même si la présence au bureau est importante, on pourra peut-être en reparler plus tard.
Bien sûr, mais alors justement, c'est intéressant que vous parliez de technologie, parce que la référence absolue, en tout cas à l'origine du bien-être au travail, c'est Google pour beaucoup, beaucoup de salariés. Est-ce que vous retrouvez une inspiration googlesque ou en tout cas techno issue de la Californie et de ce genre de choses?
Oui, c'est vrai que maintenant, les sociétés de technologie ont repris un petit peu les codes de Google, que ce soit pour l'organisation de l'espace de travail, les services qui sont apportés aux entreprises. Je pense que, en effet, Google, entre autres, mais Google en est un exemple assez marquant, a été assez pionnier dans ces modèles-là, à avoir typiquement les cantines qui sont ouvertes en permanence et qui sont gratuites pour les salariés, pour que les gens se sentent bien, mais aussi puissent passer du temps au bureau. Donc, c'est des choses qui ont été dupliquées par beaucoup d'entreprises internationales et des entreprises américaines, mais aussi maintenant par beaucoup d'entreprises françaises. On voit de nombreuses entreprises de la tech française qui reprennent ces codes. Et quand on va arriver dans un bureau, on va sentir un petit peu ça, on va sentir des inspirations californiennes, soit sur l'installation des bureaux, soit c'est dans les services qui sont proposés aux salariés.
C'est intéressant ce que vous dites, Franck, parce que c'est marrant. En préparant cette interview, je me suis jamais dit qu'Uber for Business était une entreprise de technologie, ce qui est stupide, je le sais, mais pour moi, Uber for Business ou Uber en général, ce sont des taxis, c'est Uber Eats, c'est ce genre de choses. Alors, Uber for Business, c'est quoi?
Alors, pour juste citer le fondateur historique d'Uber, il aimait dire que Uber était une entreprise de data qui s'était retrouvée par hasard dans le business du taxi. Et je pense que c'est vrai, on est vraiment une entreprise technologique, on est une plateforme de mise en relation, et ça, c'est important de le préciser. à la fois de passagers et de chauffeurs pour l'activité de mobilité, mais aussi de restaurants et de coursiers, et aussi donc de, on va les appeler de eaters, pour l'activité de livraison de repas. Voilà, donc tout le monde en tout cas connaît Uber en tant que marque grand public avec les applications Uber et Uber Eats, qui sont évidemment beaucoup plébiscitées en France et dans le monde entier. Et en fait, on a développé depuis quelques années en France et dans d'autres pays dans le monde une marque B2B qui s'appelle Uber for Business, qui est en fait une plateforme qui va venir au-dessus de nos applications et qui va permettre à des entreprises de contrôler, mais aussi d'avoir de la visibilité sur l'usage qui va être fait de nos produits de mobilité, mais aussi de nos produits de livraison de repas. Et leur permettre de customiser un petit peu le service. Et donc, la customisation, évidemment, a pas mal de succès en ce moment, puisque voilà, la restauration d'entreprise a été évidemment beaucoup challengée durant cette crise sanitaire avec tout le monde à la maison. Les cantines, comme on les connaît dans les entreprises, ont été fermées depuis bien longtemps. Et beaucoup d'entreprises ont voulu recréer cette continuité dans le service de restauration et ont voulu nous utiliser notre technologie pour pouvoir payer tout ou partie des déjeuners de leurs employés quand ils sont à la maison.
C'est ça, vous avez non seulement profité, entre guillemets, de la pandémie parce que de facto, les cantines avaient fermé, donc j'imagine qu'il y a eu une augmentation très forte de votre demande, mais vous êtes adapté et avec des mini-événements créés par des entreprises. Enfin, il y a eu plein de choses qui ont été imaginées pendant cette pandémie pour utiliser votre service, en fait.
Exactement. On a été, nous aussi, on s'est ajusté par rapport à cette crise. On a ajusté certains de nos produits, on en a créé des nouveaux. Et en effet, un produit qui s'appelle par exemple Vouchers, qui permet d'éditer en fait des bons Uber Eats ou Uber, a été très publicité pendant cette crise pour pouvoir organiser des événements internes, des apéros virtuels, des déjeuners d'équipe, etc. Donc en effet, il y a eu certains produits qui ont eu plus de succès pendant cette crise qu'ils n'en avaient auparavant.
Ça, je dois dire que le voucher pour le petit déjeuner en équipe ou le déjeuner en équipe ou l'apéro en équipe, j'aurais pas pensé, et ça fait partie des choses, je trouve, plutôt sympathiques, parce que garder du lien, ça a fait partie des grandes problématiques pendant cette pandémie. Et justement, si on parle du Covid, j'étais aussi très surpris de l'engagement de Uber au-delà des soignants, mais pour les soignants, vous avez été très, très, très présent.
Oui, c'est vrai, on a été très présent. En fait, on s'est dit, ben voilà, on a, comme tout le monde, on a été mis à la maison et on s'est dit comment est-ce qu'on peut réagir et aider justement la communauté. Donc, on a tout d'abord offert pas mal de courses gratuites. Dès le mois de mars 2020, on a offert 50 000 courses gratuites pour aider le personnel médical à se déplacer. On a aussi créé en parallèle une option qui s'appelait donc Uber Medix, sur lequel en fait on avait supprimé tout simplement les 25% que nous prenons sur les courses, donc sur lesquels en fait on ne gagnait pas d'argent, simplement les chauffeurs étaient rémunérés comme une course normale. Et puis on a continué après à réoffrir des dizaines de milliers de courses gratuites comme ça aux différents confinements. On a aussi étendu cette initiative pour offrir des courses aux seniors pour leur permettre de se déplacer pour aller se faire vacciner contre le Covid il y a quelques semaines. Voilà, donc on a essayé de s'impliquer à la fois financièrement en amenant des courses gratuites et en permettant de fluidifier la mobilité des soignants qui ont été mis à rude épreuve dans cette période-là. Et puis on a aussi, de l'autre côté, puisqu'on a un rôle à jouer là-dessus, augmenté le niveau de sécurité, on va dire sanitaire, sur nos services en finançant des masques, des parois de séparation, des lingettes pour les chauffeurs, mais aussi en allant plus loin en utilisant la technologie pour typiquement détecter le port du masque pour nos chauffeurs, pour pouvoir commencer une session. Donc voilà, donc à la fois un investissement à la fois financier, mais aussi un investissement techno pour ajuster notre service à la nouvelle norme.
Moi, je trouve ça vraiment très bien quand il y a des marques, des entreprises qui s'engagent pour réagir à court terme. Mais je voudrais changer de sujet. Il y a un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est le sujet de l'égalité femmes-hommes en entreprise. Et je crois que Uber, enfin, je crois, pour avoir préparé cette interview, je sais que vous avez un vrai engagement sur ces sujets-là également.
Oui, c'est vrai qu'on est très engagé sur ce sujet-là. Ça fait vraiment partie de la culture d'entreprise où la diversité et l'inclusion en fait sont vraiment à partie de notre stratégie d'entreprise. Donc il y a beaucoup d'actions qui ont été mises en place sur ces dernières années et c'est vrai qu'on était ravis d'obtenir la note de 99 sur 100 sur l'index égalité femmes-hommes cette année, ce qui était pour nous un gros achievement. On a aussi obtenu la note maximale liées aux augmentations retour de maternité, qui est un critère aussi important, tout comme sur les 10 plus hauts salaires de l'entreprise, puisque 5 sont des femmes et 5 sont des hommes. Donc voilà, on compte. Et on a intégré aussi des nouveaux process dans nos process de recrutement. Donc, on applique la règle Mansfield qui exige que 30% des candidats envisagés pour un emploi, une promotion ou même des mouvements horizontaux au sein de l'entreprise soient identifiés comme historiquement, je précise, sous-représentés. Donc voilà, donc pas mal de choses qui ont été évoluées, un gros investissement humain avec des équipes en interne, mais aussi des vrais changements dans les process au sein de l'entreprise.
Et un sujet dont vous n'avez pas parlé, mais qui m'a pas étonné, mais en tout cas, je trouve ça très bien, non seulement vous avez une approche spécifique pour les parents, mais également pour les aidants. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que chez Uber for Business et Uber en général, vous n'essayez pas de considérer la politique RH comme une globalité, la même chose pour tout le monde, mais au contraire, de faire du super sur mesure.
Absolument, c'est vraiment ajusté, c'est du super sur mesure. Je pense que c'est assez clé aussi de faire vraiment du super du sur mesure quand on est une boîte internationale qui est très très implantée, on va dire dans la vie des gens. C'est-à-dire que on a tous des histoires à raconter avec Uber ou avec Uber Eats. C'est dans notre téléphone, c'est dans notre poche tous les jours. Et donc, il y a cette proximité-là. Et en fait, on a quand même une nécessité sur tout ce qu'on fait d'être hyper, d'être beaucoup sur la proximité, de s'ajuster, de faire vraiment du local.
Mais question très personnelle, Franck. Vous, en tant que dirigeant, est-ce que parfois, vous n'avez pas envie de vous dire « Mais pourquoi je suis né au 21e siècle ?» Au 20e siècle, c'était quand même plus simple. Tout le monde était logé à la même enseigne et on ne s'embêtait pas à savoir est-ce que tel, un tel a telle situation, etc. etc. Est-ce que parfois, vous ne dites pas « Je ne suis pas né au bon siècle ?»
Non, je ne me dis pas ça parce que je me dis que voilà, on est en train de construire un petit peu le monde de demain. Il y avait des inégalités et je pense que c'est plutôt aller dans le sens de l'histoire qu'est d'essayer de régler ces inégalités et de mettre en place en fait des règles qui vont nous assurer que les choses vont être faites correctement, puisque voilà, c'est quand même beaucoup de bon sens derrière tout ça.
Et mis à part le télétravail, parce que ça, je pense que c'est tout le monde est d'accord sur ce sujet, mais quelles sont les traces que la pandémie va laisser dans le monde de l'entreprise, selon vous, au-delà de votre activité, ou même d'ailleurs pour votre activité, si vous voulez en parler?
Oui, alors, comme toutes les crises, parce qu'au-delà, c'était d'abord une crise sanitaire et puis évidemment, c'est devenu une crise économique, toutes les crises sont des vrais accélérateurs de changement. Donc, vous parliez du télétravail, c'était déjà en lame de fond, quelque chose qui s'installait de plus en plus dans les entreprises. Évidemment, ça a été un accélérateur. Pour citer ce qui se passe chez Uber, typiquement, on était en une journée de télétravail autorisé avant le Covid. Était annoncé, on passe maintenant en 2 jours et ça a été mis en place dans tous les pays. Voilà, donc il y a des changements, il y a des entreprises qui vont évidemment plus loin et qui ont dit voilà, tout le monde peut être en 100% remote pour ceux qui souhaitent.
Et je crois que pour le congé paternité, vous allez au-delà aussi.
Pour congé paternité, en effet, l'entreprise est assez généreuse puisque on offre 4 mois de congé paternité au papa, ce qui est très généreux et ce qui est assez exceptionnel pour l'avoir connu cette année. C'est une chance incroyable de pouvoir s'arrêter comme ça dans une entreprise qui va à 300 à l'heure, de pouvoir tout laisser et revenir quelques mois plus tard pour profiter d'un instant évidemment qui est très précieux et sur lequel généralement on n'a pas suffisamment de temps, je dirais, pour bien en profiter.
Mais ça, je trouve ça assez extraordinaire parce que vous dirigez une filiale importante de Uber. Sans trahir de grands secrets sur votre vie personnelle, vous venez d'être papa et on a repoussé cette interview pour que vous reveniez de vos congés de paternité. Et vous n'avez jamais subi de pression de la part de votre direction pour dire « Non, mais attends, t'es dirigeant quand même, maintenant tu rentres ?»
Non, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment dans les mœurs. C'est un peu « play hard », enfin « work hard, play hard hein. », c'est un peu les modos dans certaines entreprises. Et en fait, c'est quelque chose qui est très déculpabilisé. Et qui est vraiment utilisé et pris par tout le monde au sein de l'entreprise. Voilà. C'est arrivé que les dirigeants globaux de l'entreprise, évidemment, aient des naissances. Ils ont aussi pris leur congé paternité. Donc, il y a vraiment un encouragement à le faire. pour profiter tout simplement de ces moments qui sont des moments uniques et se sentir bien dans sa vie et donc bien dans son travail.
Alors, Franck, avant-dernière question, et généralement, l'avant-dernière question est toujours une question un tout petit peu provocatrice. Rien de terrible, ne vous inquiétez pas. Mais je me posais la question, est-ce que finalement, l'un de vos objectifs dans cette entreprise qui est Uber for Business, ça ne va pas être de faire en sorte que, admettons, dans 3-4 ans, le mot ubérisation n'ait plus de connotation négative, mais au contraire, qu'on se dise… Ubérisation, c'est plus de social, c'est plus de relations sociales, c'est plus d'équilibre femmes-hommes, parce que vous devez en pâtir en termes d'image. Donc, est-ce que ça fait partie de vos objectifs ?
Alors, pour répondre à la question, déjà, le terme ubérisation est un terme qui est né en France. Mmh. En fait, le sujet Uber a été très vite politisé en France et ce terme est né. Donc, moi, je préfère le voir vraiment comme quelque chose de positif et… J'ai notamment déjà eu des personnes en entretien qui sont venues en me disant j'ai souvenir d'un jeune homme qui disait voilà, en ce moment je travaille sur une mission pour une entreprise qui est une TPE française, et en fait la mission c'est comment éviter de se faire ubériser sur notre industrie. Voilà. Donc je pense que ça a un peu aussi ouvert les yeux à certains en se disant attention, on a peut-être un mur qui nous arrive droit devant nous. Et il faut peut-être aussi qu'on se pose les bonnes questions. L'économie a changé, l'économie a évolué, tout comme le monde. Et je pense que voilà, beaucoup d'entrepreneurs en fait ont repensé un petit peu aussi leur business en se disant est-ce qu'il n'y a pas un risque, mais aussi une opportunité pour nous de voir les choses légèrement différentes. Voilà. Évidemment, on est en France et ce terme a été énormément utilisé. Moi, ce que j'aime aussi à répéter, c'est qu'on fait énormément de choses pour les chauffeurs ou pour les coursiers. On a mis en place une assurance, typiquement, il y a maintenant un peu plus de 2 ans avec AXA, qui apporte de la couverture sociale aux chauffeurs. Donc, un chauffeur qui n'est plus en capacité d'exercer son activité parce qu'il va être malade ou qu'il va avoir un problème aussi avec son véhicule, ils vont toucher des indemnités. Et il y a énormément de choses qui sont mises en place et sur lesquelles je pense qu'on a aussi nous un rôle de communiquer un petit peu plus pour amener justement la protection sociale autour de ces métiers des plateformes.
Comme quoi, il ne faut pas toujours s'arrêter à la surface et je suis ravi d'en savoir plus sur votre activité et sur le fonctionnement interne du groupe Uber. Et traditionnellement, alors j'espère que le message vous a bien été passé, Franck, mais je vous ai fait travailler et je vous ai demandé votre citation ou votre mantra préféré. Donc, quel est-il et pourquoi ce choix ?
Alors, je vais prendre une citation de l'Abbé Pierre qui disait que le plus grand échec est de ne pas avoir le courage d'oser. Et j'aime beaucoup cette citation et je pense que c'est une citation qui va parfaitement à la société dans laquelle je travaille. C'est une société qui aime prendre des risques, qui aime voir un petit peu les tendances futures et qui, quand elle prend des risques, il va à fond. Et c'est vraiment une entreprise qui ose et qui, quand elle a envie de tester quelque chose, que ce soit un marché, un nouveau produit, etc., il va à fond en mettant des moyens, mais parfois des manières humaines, mais aussi des moyens financiers importants. Voilà, donc je pense que voilà, le courage d'oser est quelque chose d'important et je suis ravi d'être dans une entreprise qui prend de cette valeur.
Alors, je ne le fais jamais, mais je suis obligé de vous rajouter une question parce que je viens de remarquer que vous aviez un fond d'écran, parce qu'on est en, même si c'est audio, Happy Work, on est en visio quand on fait cet entretien. Et je vois que derrière vous, il y a visiblement quelque chose qui montre l'engagement de Uber vers le développement durable. Alors, ce n'était pas du tout prévu comme question, mais c'est quoi ? Donc, c'est Move Towards Green, bougeons vers le vert.
Exactement. Voilà. Parmi les accélérateurs de changement, évidemment aussi, avant le Covid, ce move vers plus de développement durable au sein des entreprises. Mais évidemment, la crise sanitaire, je pense, a été un accélérateur aussi pour cela. On a pris des mesures qui sont assez importantes. Je parlais de mesures en France. On s'est engagé à ce que nous ayons plus aucun véhicule diesel sur l'application dès 2024. Wow. On s'est engagé à ce que 50% du parc soit électrique et hybride en 2025. Et donc, on a aussi développé en fait un fonds qui va nous permettre de collecter dans les prochaines années 75 millions d'euros afin d'aider les chauffeurs à transitionner de véhicules thermiques vers des véhicules électriques. Donc, on est très engagé là-dessus. Et d'ailleurs, depuis Le mois de janvier de cette année, Uber Green, donc, qui est notre produit qui permet d'utiliser des véhicules propres, il est le produit qui est le moins cher dans l'application. Donc le produit qui est le plus accessible au sein de l'application. Et depuis le mois de janvier, nous avons déjà constaté une augmentation de une multiplication de 3 du nombre des courses qui ont été faites sur Uber Green. Donc on a vu que ça fonctionnait. Et on voit aussi des signaux positifs, puisque je vais reprendre un chiffre de février. En février, on avait 20% des véhicules, des nouveaux véhicules sur la plateforme qui étaient des véhicules électriques ou hybrides. Donc, voilà, donc on voit que la marche est lancée et on est ravis évidemment de faire partie de cette marche. On a un rôle à jouer en tant que leader de la mobilité en France et dans le monde. Et donc, on essaye de jouer notre rôle à fond.
Eh bien, écoutez, Franck, merci beaucoup pour toutes ces informations. Donc, je le rappelle, vous êtes le country manager de Uber for Business. Mille merci pour toutes ces informations, pour ces éclaircissements également sur une entreprise qui est effectivement assez méconnue. Donc, merci d'avoir pris le temps de nous parler et je vous souhaite une bonne continuation et plein de bonnes choses.
Merci beaucoup, Gaël. À bientôt.